taux d'incertitude autour de ces droits de douane. Seront-ils mis en place et à quelle hauteur? Le seul horizon sûr aujourd'hui pour Hanoï reste le marché asiatique, ce qui laisse présager une accélération des échanges régionaux, un processus largement engagé. Aujourd'hui, 60% des exportations asiatiques ont pour destination un autre pays d'Asie, contre 46% il y a 30 ans.
Des négociations? Quelles négociations? Entre les États-Unis et la Chine, c'est plutôt la course à l'échalote. Donald Trump a précisé ses calculs. En tout, ça fait 145% de surtaxe pour les produits chinois qui entrent sur le territoire américain. Et ça fait baisser les marchés. La bourse de Tokyo perd plus de 4% ce matin, comme le Nasdaq hier à Wall Street. Un hélicoptère s'est crashé dans l'Hudson River à New York. L'accident a fait 6 morts. Le pilote et toute une famille de touristes espagnols, dont 3 enfants.
Bruno Retailleau veut durcir les conditions pour obtenir la naturalisation.
Le ministre de l'Intérieur va envoyer une circulaire au préfet. Bruno Retailleau a un autre objectif: orienter les étrangers en situation irrégulière vers les métiers en tension. Une liste de ces métiers doit être actualisée dans les prochains jours, Charles Ducrot.
2 mois seulement après la dernière actualisation, le ministère de l'Intérieur officialise la nouvelle étape avec l'intégration dans la liste de métiers qui n'y figuraient pas jusqu'ici, se félicite l'entourage de la ministre du Travail, en étroite concertation avec Matignon et la place Beauvau. Pourrait apparaître l'ensemble des secteurs de l'hôtellerie-restauration sur la totalité du territoire, demande très forte du secteur, ou encore le transport de voyageurs qui manque de conducteurs et de techniciens, mais les arbitrages ne sont pas encore tout à fait fixés. La circulaire pour orienter les étrangers en voie de régularisation vers ces métiers est en préparation et paraîtra dans le mois, assure le ministère de l'Intérieur auprès de Radio Classique. C'est la réponse à une attente urgente des entreprises, souligne un conseiller aux yeux de qui la mesure reste temporaire. Il ne s'agit pas de rendre certaines professions exclusives à ces démarches, selon lui. En France, près de 400 000 étrangers en situation régulière sont au chômage. Le taux d'emploi est un sujet de maîtrise nécessaire de l'immigration, justifie un conseiller de l'exécutif.
Betaram va faire l'objet d'une enquête plus approfondie. Le rapport du rectorat met en lumière plusieurs dysfonctionnements dans l'établissement catholique du Béarn. Des témoignages d'élèves mettent en cause les agissements de 2 enseignants. François Bayrou, le Premier ministre, sera entendu par la commission d'enquête le mois prochain. C'est un jour sans fin. Le PR de Flamanville ne devrait pas redémarrer avant au moins une semaine. C'était prévu aujourd'hui, après l'arrêt du mois de février. On parle d'avarie dans la partie nucléaire du réacteur d'EDF. Le retour d'une pratique bannie depuis 2009 en Europe. Les épandages de pesticides par drone vont reprendre en France. L'autorisation reste tout de même très limitée pour les vignobles escarpés et les bananeraies des Antilles. Qu'est-ce que la création artistique? Quels peuvent être ses liens avec l'intelligence artificielle? Ça n'est pas le bac de philo, David. C'est une exposition au Jeu de Paume à Paris avec une 40aine d'œuvres en lien avec l'IA, Tiffaine Dubuard.
La déambulation commence avec des œuvres qui racontent les origines de l'IA. Sur 2 murs qui se font face, un arbre généalogique géant se révèle aux visiteurs. On y voit ChatGPT en descendant de l'imprimerie. Plus loin, vous découvrez des œuvres générées par l'IA, des sculptures de l'Antiquité en partie reconstruites, des photos où le réel se mélange à l'artificiel. Parmi les artistes exposés, Grégory Chantowski veut aller plus loin dans sa réflexion. Sur un écran, des images générées défilent. Ici, il s'interroge sur le monde rendu possible par l'intelligence artificielle.
Les images que vous êtes en train de voir, vous ne les verrez qu'une fois et vous serez les seuls à les voir. C'est toutes mes vies possibles, c'est tout ce qui n'est pas. C'est ma vie en tant qu'homme, ma vie en tant que femme, ma vie en tant que blanc.
Créer de l'art grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi de l'art qui la questionne, c'est tout l'objet de cette exposition, selon Alexandre Geffen, commissaire associé.
Notre volonté était de dire que l'art contemporain essaye aussi de penser de manière critique l'IA. Qu'est-ce que l'IA n'est pas capable de montrer, comment elle peut se tromper, comment elle peut faire des hallucinations, comment elle peut nous contrôler.
Pour s'immerger dans ce monde selon l'IA, un conseil: prendre son temps afin de saisir toutes les dimensions de l'exposition.
Et puis, je sais que ce n'est pas forcément votre truc, David, mais je vais vous donner envie d'aller voir une rencontre de football. Demain, les footballeuses lyonnaises ont un match de ouf. Alors, oui, je parle normalement, je vous promets. C'est comme ça qu'elles l'appellent, parce qu'elles ouvrent une de leurs tribunes aux spectateurs accompagnés de leurs chiens. C'est une première en France pour attirer plus de monde. Ce sera contre le Paris FC et ça a un petit côté Didier.
Mais oui, effectivement, Didier, avec Alain Chabat, oui, l'homme qui se prenait pour un chien. Mais vous savez que les chiens adorent jouer à la balle, évidemment, et ils anticipent très bien. Moi, j'ai beaucoup de mal. Le mien a une lecture anticipée du côté où je vais frapper dans la balle. Et il plonge mélange merveilleusement.
Alors, est-ce que c'est lui qui est fort ou vous, pas trop, je sais pas.
Non, c'est lui qui est très fort. Dans un instant, l'éditorial avec Les Échos. On retrouve Étienne Lefebvre et il est 7h07.
Retrouvez les carnets de Gauthier Capuçon du lundi au vendredi à 17h sur Radio Classique. Cette émission est disponible en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles.
Radio Classique. Vous êtes bien avec Radio Classique.
Les ETI sont essentiels dans la transformation durable de nos vies. Comment ? Réponse avec Grâce à nos ETI, chaque mardi à 7h29 avec Fabrice Lundy sur Radio Classique. Un programme proposé par KPMG, cabinet leader de l'audit et du conseil en France, engagé à agir pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable.
Madame Figaro, spécial déco est en kiosque. On s'évade et on prend la direction de Minorque ou encore du Brésil pour des escapades dans des maisons de rêve. Partez à la rencontre des jeunes designers français qui comptent et toujours toutes les nouveautés et les tendances du moment. Madame Figaro spécial déco, en vente actuellement.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Étienne Lefebvre à 7h10 pour l'éditorial de l'économie avec Les Échos. Bonjour Étienne.
Bonjour David.
Après la France et l'Italie, c'est au tour de l'Allemagne de revoir à la baisse ses ambitions de croissance.
Et oui, avec la guerre commerciale, on en oublierait presque les difficultés propres à la zone euro, qui sont nombreuses en particulier du côté allemand. Les économistes outre-Rhin espèrent désormais au mieux une croissance zéro en 2025, après deux années de récession, et ce malgré le méga plan d'investissement du nouveau gouvernement, qui de fait ne commencera à porter ses fruits qu'en 2026. En France, Bercy notable plus que sur 0,7% de croissance cette année, un objectif jugé encore trop optimiste par l'OFCE notamment. Enfin, en Italie, la prévision a été carrément divisée par deux à 0,6% seulement. Alors même si d'autres pays vont mieux, comme l'Espagne, la Pologne, l'économie européenne aborde son face-à-face avec Trump dans une bien faible position.
Et ces prévisions intègrent néanmoins l'impact des droits de douane américains.
Oui, mais en partie seulement et pour cause, personne ne peut prévoir l'issue du conflit. C'est d'ailleurs cette incertitude qui risque de pénaliser le plus l'économie ces prochains mois, davantage que les 10% de droits de douane imposés par Trump. Alors que faire ? D'abord, jouer la désescalade comme le fait la Commission européenne, en misant aussi sur d'autres partenaires commerciaux, et puis tenter malgré le tumulte de se recentrer sur nos priorités, à savoir améliorer la compétitivité du vieux continent. Bruxelles a mis des mesures de simplification sur la table, il s'agit de les appliquer au plus vite. Le retour de l'axe franco-allemand peut aussi jouer un rôle moteur. Le programme de la coalition outre-Rhin donnant la direction à suivre, moins d'impôts et moins de dépenses. Même si côté français, au vu de la situation budgétaire, ce sera surtout moins de dépenses. N'en déplaise aux politiques qui commencent à réclamer pour certains le retour du quoi qu'il en coûte pour amortir les effets de la guerre commerciale, ce qui serait une pure folie.
L'éditorial d'Étienne Lefebvre avec Les Échos qui titre ce matin « Droit de douane, la désescalade ». Dans une minute, François Monnier, directeur de la rédaction du magazine Investir, invité des voix de l'économie. Mais tout de suite, il est 7h11, l'essentiel de l'économie. À la une, un soupçon de délit d'initié au sommet de l'État américain. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren demande l'ouverture d'une enquête auprès du régulateur des marchés financiers. « C'est le moment d'acheter », avait annoncé mercredi le président américain Donald Trump, quelques heures seulement avant de suspendre la majorité des droits de douane et de provoquer une spectaculaire réaction des marchés financiers. « Le statu quo sur les retraites est impossible », estime Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes. Le poids des retraites s'élève à 14% du produit intérieur brut, en raison notamment de l'indexation des pensions sur l'inflation, explique l'institution dans un rapport qui vient d'être remis au Premier ministre. Un problème technique ne permettra pas le redémarrage de l'EPR de Flamanville cette semaine. Le réacteur nucléaire est arrêté depuis le 15 février, quelques semaines seulement après son raccordement au réseau électrique. Officiellement, l'arrêt est prévu jusqu'au 17 avril, mais EDF prévient qu'il est susceptible de se prolonger.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Les voix de l'économie à 7h13. Stéphane, votre invité, le directeur de la rédaction du magazine Investir.
Pour vous expliquer effectivement la folle semaine des marchés financiers, surtout la journée de mercredi qui a été un véritable point de bascule pour les États-Unis. Bonjour François Monnier.
Bonjour Stéphane.
Quelle semaine sur les marchés financiers ? Elle fait sans doute partie de celle qu'on gardera en mémoire pour expliquer à l'avenir telle ou telle crise. Pourquoi est-ce que la crise de cette semaine est différente de toutes celles que les marchés ont connues jusqu'à présent ?
C'est vrai que c'est une crise singulière, alors qu'on a l'habitude quand même des crises depuis 20 ou 30 ans, hein, puisque le marché, les investisseurs ont connu des crises financières, boursières, économiques, sanitaires, géopolitiques. À chaque fois, les États et les banques centrales finissaient par venir au secours de la croissance économique du pays, voire du monde. Cette fois, c'est particulier parce qu'il s'agit d'un chef d'État qui est à l'initiative volontairement de la crise. Donald Trump agit finalement en pompier pyromane. C'est lui qui déclenche cette crise avec ses droits de douane. Il augmente le risque d'inflation, le risque de récession pour le bien, croit-il, du pays afin de favoriser la réindustrialisation. Et donc cette crise, finalement, c'est lui qui l'a provoquée. C'est peut-être lui aussi qui peut l'éteindre.
On s'est beaucoup demandé cette semaine si les marchés financiers avaient fait plier le président américain Donald Trump. Pour tenter d'apporter une réponse, vous allez nous détailler en fait les différentes étapes qui nous ont conduits jusqu'à cette journée de bascule mercredi.
C'est vrai que si cette crise elle est singulière, sa propagation finalement dans le marché, elle est tout à fait classique. D'abord, on assiste à une première phase. La première phase, on a des investisseurs qui vendent les actions des entreprises touchées directement par la crise. Actuellement, bien sûr, ils ont commencé par vendre les groupes qui exportaient aux États-Unis parce qu'ils allaient subir des droits de douane drastiques. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, les investisseurs vendent les sociétés qui sont touchées par le cycle économique. Donc, on a d'abord vendu directement les entreprises exportatrices. Après, ce sont indirectement les entreprises qui sont liées à la croissance économique, notamment les banques. Troisième phase, eh bien, on vend tout. C'est ce qu'on appelle la petite capitulation. On vend toutes les actions, on prend des bénéfices sur les sociétés qui ont résisté jusque-là, les télécoms, l'alimentation, pour essayer d'effacer les moins-values qu'on a pu avoir parmi les entreprises qui exportaient.
Donc la petite capitulation, c'est ce qui s'est passé lundi.
C'est ce qui s'est passé lundi et ça a conduit à un rebond technique le lendemain parce qu'on avait un petit peu exagéré. Mais là, c'était toujours, on n'était pas encore dans un mouvement de panique. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que lorsqu'il y a panique, lorsqu'il y a une vraie capitulation, c'est lorsque les investisseurs vendent les actions et les obligations. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans la nuit de mardi à mercredi, où la bourse baissait, mais aussi les obligations. Et là, c'est un phénomène qui est plutôt rare et qui, tout de suite, devient très préoccupant. Parce que dans les phases de baisse, les investisseurs essaient de trouver des valeurs refuges. Donc, ils vendent des actions qui sont plutôt volatiles, pour aller généralement vers les obligations
d'État. C'est ce qu'on appelle le « fly to quality »
absolument.
Pour les spécialistes.
On va vers ce qui rassure, on va vers les obligations, les emprunts d'État américains, un marché gigantesque, hein, 29 000 milliards de dollars, et généralement ça rassure de détenir une part de la dette de la première puissance économique et militaire au monde.
Mais là, ça ne s'est pas passé comme prévu.
Et là, ce n'est pas ce qui s'est passé du tout. On avait bien sûr une tension sur les actions et en tout début de matinée, heure française, vers 6 heures du matin, d'un seul coup, on a pu voir que les rendements d'État des obligations américaines passaient de 4 à 4,5%. C'est énorme. Hein. Et là, on s'est dit, il se passe quelque chose. Vu l'horaire, vers 6 heures du matin, ça vient probablement d'Asie. Est-ce que c'est la Chine ou le Japon ? Est-ce que c'est les deux pays qui ont commencé à vendre des obligations d'État américaines ? Et là, bien sûr, là, c'est la panique. Et Donald Trump ne peut pas tenir une position dans un marché aussi compliqué parce que ça allait étouffer l'économie américaine. À partir du moment où vous êtes dans un État endetté qui fait des déficits récurrents, vous avez besoin de pouvoir emprunter à des taux pas trop élevé. Si vous payez trop de charges financières, eh bien vous étouffez. Et là, finalement, Donald Trump avait une position totalement intenable, d'autant qu'au même moment, parmi ses proches, il y avait quand même des petites voix qui disaient « Attention, on va dans le mur ». On a eu quand même quelques heures avant cette déclaration, le patron de la plus grande banque américaine, le patron de JP Morgan, M. Diamond, qui a dit « Attention, le risque de récession devient probable. » On voyait que la tension montait et on ne peut pas tenir lorsque vous avez un marché obligataire qui commence à dévisser. Et là, la position devenait totalement intenable pour Donald Trump.
Voilà l'explication de ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés financiers et de ce qui a fait reculer Donald Trump, malgré les déclarations de la Maison-Blanche, tout le narratif qui nous explique que, évidemment, tout cela était anticipé et que Donald Trump avait planifié longtemps à l'avance cette spectaculaire reculade de mercredi. On pensait que la page était en partie tournée, les marchés financiers ont rebondi. Et de nouveau, hier soir, clôture en forte baisse aux États-Unis. En baisse également ce matin à la bourse de Tokyo, entre autres. Ça veut dire que la situation va rester tendue ?
Oui, ça veut dire qu'on va avoir assisté à une forte volatilité. Il faut voir quand même que le rebond, il a été spectaculaire. Le S&P 500, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, a bondi de plus de 9,5%. C'est la meilleure séance de bourse depuis octobre 2008, c'est-à-dire quelques séances après la faillite de Lehman Brothers. Ça vous montre quand même l'ampleur de la hausse. Le Nasdaq, c'est la deuxième plus forte hausse, plus 12,16%, la deuxième plus forte hausse de toute l'histoire des valeurs technologiques américaines. Donc un très très fort rebond, mais encore beaucoup d'incertitudes. L'incertitude vient du fait que Donald Trump a créé une crise de confiance. Les investisseurs, les chefs d'entreprise, et bien sûr les consommateurs, sont quand même inquiets. Et donc ça retarde la consommation, ça retarde l'investissement, ça retarde le fait aussi que les investisseurs vont placer leur argent aux États-Unis. Et donc cette crise de confiance mérite d'être battue en brèche. Et là, il faut des actes. Là, on parle de suspension des droits de douane, pas d'annulation. Donc le chemin reste encore à tracer.
Une question qui agite la classe politique américaine. Est-ce que Donald Trump a manipulé les marchés financiers ? Les démocrates réclament l'ouverture d'une enquête. Délit d'initié, c'est quelque chose de très grave sur les marchés.
Bien sûr, c'est quelque chose de très grave et un président ne devrait jamais dire ça. Lui, ce qu'il a, il a écrit sur son réseau social pour ses abonnés, pour son fan club, c'est « Soyez cool, c'est le moment d'acheter ». Et ça, quelques heures avant le fait qu'il allait revenir en arrière sur les droits de douane et provoquer un des plus forts rebonds de toute l'histoire de Wall Street. Donc évidemment, ça ne se fait pas. Et surtout, on a pu voir que les cours de bourse commençaient déjà à monter avant sa déclaration. Donc oui, il y en a peut-être qui ont suivi son conseil, ou peut-être que dans son entourage, il y a des personnes qui étaient au courant de son discours et son changement de posture. En tout cas, le comportement de Wall Street, ce qui est sûr, et n'était pas normal à quelques heures avant sa déclaration.
Et le délit d'initié est très sévèrement puni. Hein. Ce sont des années et des années de prison en théorie. Tout cela reste évidemment théorique, puisque vu l'équilibre des forces politiques aux États-Unis, on nous dit que cette demande d'enquête a relativement peu de chances d'aboutir. Merci beaucoup François Monnier d'être venu ce matin sur Radio Classique. Évidemment, la folle semaine des marchés financiers, ce sera à lire dans les colonnes d'Investir, dont vous êtes le directeur de la rédaction Investir dans les kiosques. Demain et en ligne dès ce soir pour ceux qui sont digital native, on va dire.
Stéphane,
je parle anglais comme ça, je fais semblant, puisque Karine Dijoux arrive dans un instant.
Exactement, vous allez vous faire taper sur les doigts, mais je n'ai pas l'objectif. Besoin de l'annoncer, et ce sera juste suivi des coulisses de la politique. Excellent week-end à vous, mon cher Stéphane. Il est 7h21. Bonjour Karine.
Bonjour David.
Question fréquente de nos auditeurs. Faut-il écrire lorsqu'arrive le jour ou lorsqu'arrive le jour ? Alors le premier lorsque avec un E, le deuxième sans E mais avec un apostrophe. Une apostrophe ou un apostrophe ?
Une.
Une apostrophe. Donc lorsque ou lorsque ?
Même si cela semble étonnant, il faut écrire lorsque, en gardant le E, arrive le jour. En effet, la conjonction de temps « lorsque » peut s'élider, c'est-à-dire voir son « e » final supprimé, mais seulement devant les pronoms et déterminants qui commencent par une voyelle. Exemple, « lorsqu'elle entre », là, « lorsque » est élidé. Mais « lorsque » Éléonore entre », »,« lorsque » n'a pas d'apostrophe. Lorsqu'une leçon est enfin expliquée, « lorsque » est élidé. En revanche, lorsque enfin une leçon est expliquée, lorsque n'est pas élidé. C'est très subtil.
Ah oui. Qu'en est-il de l'adjectif éponyme ? On dit, pour ne pas faire une répétition, on dit, voilà, il a écrit La recherche du temps perdu et le film éponyme est sorti.
Oui, on l'entend souvent, mais il est employé à l'envers. Pourquoi ? L'adjectif et nom éponyme désignent celui qui donne son nom à quelque chose. Ainsi, Athéna est la déesse éponyme d'Athènes. C'est Athéna qui donne son nom à la ville. Et si un film est tiré d'un livre, on dira donc « Le film Orgueil et préjugés est tiré du livre éponyme de Jane Austen et non pas l'inverse. »
Vaut-il mieux dire « Il est en retraite » ou « Il est à la retraite » nous demande un auditeur qui lui-même a arrêté de travailler.
Cette question m'a été posée à plusieurs reprises et les auditeurs qui la posaient indiquaient leur nette préférence pour la tournure à la retraite. Cependant, les deux se disent tout autant. Maurice Grevis indique dans son Bon Usage, en parlant de quelqu'un qui s'est retiré d'une fonction ou d'un emploi tout en continuant à toucher une somme mensuelle, on dit qu'il est à la retraite ou en retraite. Et le dictionnaire Le Petit Robert indique la même chose en illustrant de cet exemple officier à la retraite ou en retraite. Et même l'Académie française indique départ à la retraite et départ en retraite.
Pour terminer, faut-il dire c'est la première fois que ou c'est la première fois où ?
De mon côté, ce n'est pas la première fois que je me pose la question. Et sur ce point aussi, vous pouvez désormais souffler, les deux tournures sont correctes. En règle générale, quand la temporalité est exprimée dans une phrase, il faut employer où ? Exemple, le jour où j'ai enfin tout compris. Mais au Moyen-Âge, que s'est progressivement substitué à où et l'a même progressivement remplacé. Aujourd'hui, on a gardé la tradition du où, mais que peut lui être substitué après certains adverbes de temps, aujourd'hui, à présent, maintenant, chaque fois et la première fois.
À lundi, Karine, pour Ici, on parlait français. Merci.
À lundi.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Chaque jour dans la matinale de Radio Classique, retrouvez comment j'ai réussi à 6h15 avec Natran. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous en avez assez de dire non à votre enfant ? J'ai la solution. Dites-lui oui. Oui à tout. Oui, mon amour, tu peux choisir l'atelier peinture, dessin ou éveil musical. Oui, vas-y, fais de la mosaïque, de l'aquarelle ou même du modelage. Oui. Et oui, pendant les vacances, c'est l'opération Vive les couleurs chez Cultura, avec 20 000 ateliers gratuits pour éveiller vos enfants à l'art et à la culture. Inscrivez-vous dès maintenant sur cultura.com. Offre réservée aux membres Cultura Addict, voire conditions en magasin et sur cultura.com. Cultura, la culture avec un grand A.
Le Parisien, aujourd'hui en France, vous invite à découvrir les plus belles randonnées de France dans son nouvel hors-série. Sentiers côtiers, chemins forestiers, itinéraires au cœur des vignes ou des montagnes, 15 parcours d'exception de 1 à 6 jours avec notre guide pratique. Les 15 plus belles randonnées de France, un hors-série Le Parisien, aujourd'hui en France, chez votre marchand de journaux. Renault.
Tous les hybrides ne se valent pas. Choisir la motorisation Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est choisir la technologie Full Hybrid numéro 1 des ventes en France. C'est jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. C'est rouler jusqu'à 130 km/h en électrique et faire jusqu'à 40% d'économie de carburant. C'est une gamme complète de 7 modèles Renault Full Hybrid E-Tech, comme par exemple Clio, Symbiose, Austral ou Rafale.
En 2024, source 3 Adata, selon version et conduite, économie versus moteur thermique, voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Marcelo Vesfred du Parisien aujourd'hui en France, les coulisses de la politique à 7h25. Bonjour Marcelo.
Bonjour David.
Les nuages s'amoncellent pour François Bayrou. Le Premier ministre s'apprête à traverser une période de turbulence, nous dites-vous.
Oui, d'abord, il y a la question du budget. Il faut le revoir et le corriger. Les prévisions de croissance ont été revues à la baisse, les recettes entrent moins et il y a l'instabilité mondiale et l'effort de réarmement. Le Premier ministre va devoir annoncer de mauvaises nouvelles. Mardi prochain, il organise un grand raout, une conférence des finances publiques, opération transparence. Et comme le dit un député de son camp, François Bayrou a décidé de prendre l'opinion publique à témoin, de faire pression, c'est une façon de faire pression ensuite, sur les parlementaires. C'est habile, fin de citation. Alors parmi les pistes qui circulent, il pourrait y avoir, selon nos informations, une année blanche pour les prestations sociales.
Alors d'ores et déjà, Bercy annonce des gels de crédit.
Oui, le gouvernement a gelé 5 milliards d'euros. Il veut procéder par petite touche pour éviter de sortir la grosse artillerie, c'est-à-dire ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificatif. Débat qui pourrait donner lieu à une nouvelle motion de censure dans la foulée. Ça, c'est la deuxième angoisse du Premier ministre. Et la troisième, c'est Bétarame. François Bayrou est accusé d'avoir fermé les yeux dans les années 90 sur les violences dans cet établissement catholique béarnais. Le 14 mai, il sera auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur ce qui s'est précisément passé dans cet institut. Il sera sous serment. Le Premier ministre devra répondre aux questions, notamment des députés insoumis qui l'accusent de mensonges. Et ce, alors que les premiers témoignages qui ont eu lieu hier devant la commission d'enquête, un gendarme, un magistrat, ne vont pas dans le sens des affirmations de François Bayrou.
Une épreuve, on l'imagine, puisque son épouse y travaillait et que ses enfants y étaient scolarisés.
Alors justement, David, vous faites bien d'en parler parce que le 24 avril sort un livre aux éditions Michel Lafon. C'est une enquête sur Betabraham. Or, figurez-vous que dans cet ouvrage a témoigné Hélène Bayrou, l'une des filles du Premier ministre. Elle pourrait raconter certaines scènes de discipline musclée. On ne connaît pas encore la teneur exacte du livre, mais évidemment, c'est un sujet de préoccupation pour Matignon, à la jonction de la politique et de la vie privée, même si hier, dans l'entourage du Premier ministre, on minimisait en parlant d'un livre qui fera œuvre utile, qui aidera à la libération de la parole. François Bayrou, pour l'instant, fait le dos rond. Dans nos colonnes dimanche dernier, il disait « Si vous faites marin, si vous voulez atteindre de nouveaux mondes, c'est que vous acceptez les tempêtes. Sinon, vous choisissez le trampoline. »
François Bayrou, Moussaillon dans la tempête, les coulisses de la politique, Marcelo Vesfred. À lundi, bon week-end. Prochain rendez-vous avec la politique, 8h10. Guillaume Tabar nous parlera de Bruno Retailleau, qui défend son bilan 7 mois après son arrivée au ministère de l'Intérieur. Radio Classique, 7h28. Bonjour Charles Bonner.
Bonjour David.
Le soleil domine encore ce matin.
Encore un petit peu voilé dans le centre ou couvert autour du golfe du Lion, mais dans l'après-midi, ce sera bien ensoleillé pour toutes les régions. Les températures au meilleur de la journée, 20 à Lille, 23 à Lyon, 17 à Nice et jusqu'à 26 à Bordeaux.
Les entreprises engagées en action avec Delville Management, cabinet de management de transition, Fabrice Lundy.
Laurent Courtois est le directeur énergie-climat d'Aluminium Dunkerque, le plus gros site de production d'Europe continentale qui fabrique des plaques et des lingots qu'on va retrouver dans l'automobile, l'emballage, des produits industriels. Laurent Courtois.
Alors, ce dont je suis fier, c'est de travailler pour une entreprise qui a une stratégie de décarbonation qui vise à horizon 2030 de réduire de 30% nos émissions globales. Elle repose essentiellement sur une technologie dite de captation du carbone, qui est un process industriel assez compliqué. Et donc, on s'est mis en relation avec d'autres professionnels du milieu de l'aluminium pour travailler ensemble à développer cette technologie. On inclut des concurrents à nous, mais on considère que le challenge principal, c'est non pas forcément la compétition entre nous, mais surtout de décarboner notre processus.
L'engagement de Laurent Courtois chez Aluminium Dunkerque.
Delville Management, cabinet engagé de management de transition, vous accompagne dans les enjeux stratégiques de vos transformations. 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Charles Bonner pour le journal de 7h30.
Avec à la une ce matin une explosion de la maladie de Parkinson. Le nombre de cas pourrait doubler dans le monde d'ici 2050. Deux raisons, le vieillissement de la population et les pesticides. La Chine prépare sa riposte contre les droits de douane américains. Et des armes, elle n'en manque pas. Et puis le Mondial Relais sacrifie un tiers de ses points chez les commerçants et veut désormais se doter de casiers automatique.
Après le journal, vous retrouverez l'écho du monde. Les États-Unis et l'Iran se parlent à nouveau. Christian Macarian vous explique pourquoi. Suivi du journal imprévisible à 48 heures du marathon de Paris. Passion, course à pied. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la maladie de Parkinson.
Une maladie dont les cas ont déjà explosé, un triplement des cas en 30 ans, avant une autre explosion à venir, un doublement d'ici 2050 dans le monde. C'est une étude du British Medical Journal. En France, 270 000 personnes sont atteintes, Lucie Dupressoir.
S'il y a plus de malades de Parkinson dans les prochaines années, c'est en très grande partie à cause de l'augmentation et du vieillissement de la population, selon l'étude du British Medical Journal. Mais l'exposition aux pesticides contribue aussi au risque, explique Jean-Louis Duflou, président de France Parkinson.
Certains pesticides ou des solvants sont très nocifs et très neurotoxiques. La maladie de Parkinson a été reconnue comme maladie professionnelle chez les agriculteurs, mais ça touche aussi les personnes qui vivent à côté d'exploitations agricoles. Le risque est quasiment deux fois plus élevé en zone arboricole ou viticole que dans le reste de la France.
C'est d'ailleurs parce que la France dispose d'une large surface agricole, en plus d'une population vieillissante, qu'elle se classe à la 5e place des pays avec le plus grand nombre de cas de Parkinson. Même si elle s'est aussi mieux diagnostiquée que certains de ses voisins, Jean-Louis Duflou demande au gouvernement de se mobiliser.
Ce qu'on en attend, c'est des investissements dans la recherche. la possibilité que certains infirmiers soient spécialisés sur Parkinson, un développement de l'activité physique.
Le gouvernement promet le lancement d'une stratégie nationale sur les maladies neurodégénératives cette année, avec des mesures jusqu'en 2030.
Lucie Dupressoir. En France, le taux de mortalité infantile est plus élevé que la moyenne européenne. En 2024, on parle de plus de 4 enfants de moins d'un an décédés sur 1000 naissances. Ce sont des chiffres de l'INSEE publiés hier.
L'Union européenne suspend sa riposte contre les États-Unis.
Donner sa chance à la négociation en étant prêt à répondre, car les droits de douane restent à 10%. Pour l'Europe, la Commission évoque une possible taxation des géants du numérique américain. Il faut continuer à mobiliser tous les leviers, dit Emmanuel Macron ce matin. La guerre commerciale qui reste totale. En revanche, pour la Chine, avec des droits désormais de 145%, la Chine, en réponse, taxe à 84%, place sur liste noire des entreprises américaines. La Chine, fidèle à sa promesse de se battre jusqu'au bout, Eric Kioch.
La Chine est sûre de ses forces. Elle a retenu les leçons de sa première guerre commerciale avec les États-Unis en 2018, lors du précédent mandat Trump. Depuis, elle s'est patiemment préparée, d'abord en diversifiant ses débouchés, principalement vers les marchés asiatiques. La part des États-Unis dans les exportations chinoises ne représente plus que 10 à 15%, contre près d'un quart il y a à peine 7 ans. Ensuite, elle peut compter sur son quasi-monopole sur les minerais stratégiques. La Chine raffine 70% de l'ensemble des métaux critiques dans le monde. Certains, comme le gallium ou le germanium, sont déjà soumis à restrictions. Mais si Pékin décide de fermer totalement les vannes, ce serait un coup quasi fatal porté aux industries américaines des voitures électriques, de l'informatique ou encore de la défense. Enfin, dans cette partie d'échec entre les deux géants, la Chine peut jouer la patience. Le Made in China représente aujourd'hui 25% des produits achetés aux États-Unis, des produits qui, taxés à 145%, vont voir leur prix bondir. Et avec eux, c'est ce sur quoi table Pékin, le mécontentement des consommateurs américains.
Et hier, Wall Street a clôturé en baisse avec l'effondrement des cours du pétrole. L'inflation a reculé aux États-Unis. Ce sont donc des erreurs techniques qui ont conduit au dérapage des finances publiques en 2023-2024. Un trou de 60 milliards d'euros. La commission d'enquête parlementaire va plaider pour une amélioration des prévisions, mais les deux rapporteurs ne sont pas d'accord sur la responsabilité des politiques. L'un est député macroniste et l'autre, c'est Éric Ciotti. Dans l'opposition, c'est en pleine négociation sur les comptes du régime de retraite que la Cour des comptes a présenté hier son dernier rapport. Une sorte de bilan de la dernière réforme, puisque l'une des conclusions, Zoé Palier, c'est que reculer l'âge de départ améliore le taux d'emploi des seniors.
Oui, c'est vrai, en France et ailleurs en Europe. C'est ce que la Cour des comptes appelle l'effet horizon. Concrètement, quand on recule l'âge de départ en retraite, ça change le regard des employeurs sur les salariés de plus de 55 ans. Ils se projettent davantage avec eux dans l'entreprise. Le recul de l'âge a donc un impact positif sur l'emploi des seniors. D'ailleurs, depuis la réforme de 2023, le taux d'emploi des 50-64 ans a progressé d'un point et demi. Mais cet effet horizon fonctionne pour ceux qui sont déjà en emploi à 60 ans. Les autres restent éloignés du marché du travail. Aujourd'hui, un senior sur 5 n'est ni en emploi ni à la retraite. Et cette situation dure de plus en plus longtemps. Elle touche surtout les personnes en invalidité, mais aussi les femmes. À partir de 62 ans, elles sont deux fois plus nombreuses que les hommes à n'avoir ni pension ni salaire. Souvent parce que c'est pour elles un âge pivot où elles s'occupent à la fois de leurs petits-enfants et de leurs parents en fin de vie.
Vencorex ne sera que partiellement repris. Le tribunal de commerce de Lyon a choisi un repreneur chinois plutôt que l'offre montée par deux salariés. Seule une cinquantaine d'emplois devraient donc être maintenus sur les 300 encore sur le site du chimiste. François Bayrou avait exclu la nationalisation du site.
Vous écoutez Radio Classique, 7h36. Un redémarrage qui cale.
À Flamanville, l'EPR déjà à l'arrêt depuis mi-février, un problème technique et va être à l'arrêt jusqu'au 17 avril. Pierre Pilet, quelques semaines après son raccordement, l'arrêt pourrait durer. Hein.
Selon EDF, il y a eu des avaries sur des matériels situés dans la partie nucléaire. Cela concerne notamment un outil de mesure de la qualité de l'eau. Le groupe va procéder à des opérations de maintenance et de vérification. La pleine puissance est prévue pour cet été, mais la multiplication des arrêts risque de repousser l'échéance et ça alimente la polémique sur la fiabilité du site. Rappelons que cette EPR doit permettre d'alimenter près de 2 millions de foyers. Redémarrage prévu jeudi prochain au mieux.
Pierre Pilet, en direct. Des casiers automatiques plutôt que des commerçants. C'est un changement de modèle qu'opère actuellement Mondial Relais. 3500 points relais sont fermés sur les 11 000 en France. Partout où des casiers automatisés ouverts tous les jours sont disponibles. Régine Rallèche, de quoi mettre en difficulté un peu plus les petits commerçants.
À Vermenton, un bourg situé dans l'Yonne, Joël Mantani, propriétaire d'un atelier de couture, accuse le coup depuis qu'elle a reçu une lettre de Mondial Relais pour mettre fin à leur collaboration.
Je ne m'y attendais absolument pas parce que pour moi, c'est une source, quand même une petite source de revenus importante. C'est 340 euros en moyenne et ça me ramène aussi du monde, le fait de venir chercher des colis, ça ramène des nouveaux clients. Ça va vraiment me faire défaut et je ne sais pas si je pourrais continuer à garder ma boutique.
Un désarroi partagé par André Dormois, le maire de Consenvoie, village de 300 habitants dans la Meuse, dont la station-service a dégagé 7000 euros de revenus l'an dernier grâce au retrait de colis.
J'avais même proposé à Mondial Relais de leur accorder la gratuité pendant 6 mois. Ils n'ont même pas voulu. Parce que, encore une fois, c'est un service qui est très utile pour la population de notre secteur. Maintenant, les gens, pour aller chercher leurs colis, ils font 20 km pour aller sur Verdun ou alors ils font 30 km pour aller sur Senet.
Un argument ignoré par Mondial Relais qui privilégie désormais les consignes automatiques. Le spécialiste nordiste de la livraison prévoit d'en ouvrir 10 000 d'ici la fin de l'année dans toute la France.
Régine Rallèche. Et puis après Citroën, DS et Volkswagen, c'est au tour de Mercedes et de Toyota de lancer une campagne de rappel. Des véhicules équipés d'airbags défectueux de la marque Takata. Il s'agit des modèles Toyota Yaris produits entre 2001 et 2017, les Corolla entre 2001 et 2010. Et côté Mercedes, ce sont les classes A2 entre 2004 et 2016. Et enfin, les classes C2 et 3 entre 2004 et 2016.
Et vous, Charles, on vous rappelle vers 8h30 pour un point sur l'info. À suivre l'écho du monde, les États-Unis ont repris langue avec l'Iran. Que veut faire Trump ? Explication dans un instant.
Carrefour. Avec votre club Carrefour, cagnottez 34% d'économies sur tout la Berry. Oui, 34% d'économies sur les saumons fumés, le confit de canard, les jambons ibériques. Et c'est jusqu'au 20 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive et sur votre appli Carrefour.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Selon disponibilité en magasin, limité à 6 produits par foyer, détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
Allô ? Vous dites que vous n'avez toujours pas reçu le chèque. Ah mais c'est normal, c'est parce que je ne voulais pas envoyer. Ah non, c'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Je ne paye jamais. Non, parce qu'après, les gens s'habituent. Ça finit par me coûter une fortune, vous comprenez ?
Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2024, le cabinet Arc a réalisé 1,2 milliard d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07. 01 46 03 07 07.
Le plus grand événement des solutions pour la planète arrive à Paris. Change Now transforme le Grand Palais en exposition universelle des solutions durables. 3 jours de conférences, de rencontres inspirantes et 1000 innovations à découvrir. Le samedi, Job Fair, atelier famille, fresques et art pour tous. Entrez dans un monde durable à Change Now du 24 au 26 avril. Informations et réservations sur changenow.world.
Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si je vous dis qu'elle est proposée en version électrique, hybride ou essence, et qu'elle est à partir de 170 euros par mois, et toujours jusqu'à 8 ans de garantie offerte, là, vous pensez que c'est vous qui devriez être à son volant.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 2500 euros pour une 208 style essence neuve réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril si acceptation crédit part. Garantie à l'URCAF, conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Christian Macarian à 7h40 pour l'écho du monde. Ça s'est passé à la Maison Blanche, Christian. Bonjour, pardon, j'allais oublier de vous saluer.
Eh bien, bonjour quand même.
Ça s'est donc passé à la Maison Blanche lundi dernier, 7 avril. Nous avons des discussions directes avec l'Iran, a soudain annoncé le président américain en surprenant tout le monde. C'est une habitude. Que se passe-t-il secrètement entre les États-Unis et l'Iran ?
Alors, Donald Trump nous a juste donné un détail. Il a dit que ces discussions avaient déjà commencé et qu'elles se poursuivront samedi. Pour finir sur une note très personnelle, il a dit « Nous aurons une très grande réunion et nous verrons ce qui peut se passer ». Alors, en face, l'Iran s'est montré très embarrassé par cette révélation qu'il a pris de court. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a donné un détail supplémentaire sur le réseau X. Voici ce détail qui a son importance.
C'est un tweet, oui.
L'Iran et les États-Unis se rencontreront samedi à Oman, pour des discussions indirectes de haut niveau. Et la balle est dans le camp de l'Amérique. Ainsi a tweeté M. Araghchi. Mercredi, Trump réplique et lance un nouvel avertissement à l'Iran, affirmant qu'une intervention militaire serait inévitable si Téhéran refusait de conclure un accord sur son programme nucléaire. Et Trump d'ajouter, si une action militaire est nécessaire, il y aura une action militaire.
Vous citez le responsable des affaires étrangères iranien, le ministre. Quand il parle de discussion indirecte, ça veut dire quoi? Quand on discute indirectement avec quelqu'un?
Ça veut dire qu'il y aura M. Araghchi, peut-être, d'autres représentants, on reste dans le flou. Mais en tout cas, on a appris quelque chose, c'est que du côté américain, il y aurait... En termes de discussion indirecte, l'émissaire spécial du président pour le Proche-Orient, Steve Witkoff.
Encore lui.
Le fameux Steve Witkoff qui va voir Poutine avec, pour tout bagage, un traducteur face à une armée de petits hommes équipés de stylos et d'une très bonne mémoire, ce qui donne le résultat brillant que l'on sait dans les négociations autour de la Russie et de l'Ukraine.
Alors, faut-il que l'Iran soit mal en point pour accepter, même dans l'embarras, de discuter avec l'administration Trump?
Ah oui, parce que Trump, c'est un véritable épouvantail pour l'Iran. C'est Trump qui a personnellement donné l'ordre d'exécuter le fameux général Qassem Soleimani à Bagdad. C'était en janvier 2020, pendant le premier mandat de Trump. Ce général, à la tête des forces d'élite des gardiens de la Révolution, était en Iran un véritable héros. Ensuite, c'est aussi Trump qui a accordé, bien sûr, son feu vert total à l'offensive israélienne au Liban et à Beyrouth, qui a abouti à l'élimination de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah pro-iranien. C'était en septembre 2024. Pour finir, tordre le bras à l'Iran, c'est exactement ce qu'essaie de faire le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth, puisqu'il a évoqué le déploiement récent de bombardiers B-2 dans l'océan Indien, c'est-à-dire une menace directe sur l'Iran. Et pour terminer, pire que tout, Donald Trump a donné cette semaine une précision accablante pour l'Iran. Ouvrez les guillemets, Israël sera impliqué. C'est Israël qui prendra la tête de cette opération, a dit Trump, ce qui est évidemment un langage extrêmement offensant pour l'Iran.
Donc on retrouve la méthode Trump avant une négociation. On va parler, mais avant, tu risques d'être assommé, quoi.
Voilà, bon, modo, on met la barre très 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 haut.
Alors, la dite opération pourrait avoir lieu quand?
Alors, on n'en sait pas grand-chose, mais vous imaginez...
J'imagine que ça, c'est ultra secret, de toute façon.
Oui, mais nous avons une vague indication due au même personnage, Donald Trump, puisqu'il a envoyé une lettre à l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de la révolution iranienne, le 5 mars dernier. Or, que dit cette lettre? Que l'Amérique donne 2 mois à la République islamique pour conclure un accord. C'est une indication, puisque nous savons tous ce qu'il faut penser, de la notion de délai chez Donald Trump. Néanmoins, ça indique assez clairement une urgence. Il faut faire attention, parce que entre la Russie et l'Ukraine, Gaza, le Yémen, les droits de douane infligés au monde entier, c'est peut-être sur le dossier iranien qu'il faut prendre Donald Trump le plus au sérieux.
Christian Macarian pour l'Écho du Monde. Bonnes vacances, Christian. La semaine prochaine, c'est Nicolas Terzer qui fera office de Christian Macarian et qui assurera la chronique de l'Écho du Monde. Dans un instant, le journal imprévisible, le marathon de Paris, c'est dimanche. Augustin Lefebvre nous parle d'un phénomène de société, la course à pied. Radio Classique, 7h45.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Du lundi au vendredi, dans la matinale de Radio Classique, Natran vous présente le journal de l'écho à 6h47. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous trouvez que le temps passe vite? Nous aussi. Alors chez Mazda, nous vous offrons jusqu'à 5 ans d'entretien et 5 ans d'assistance sur nos berlines SUV compact 9 Mazda 3 et CX-30. Et pour toujours plus de sérénité, nous garantissons tous nos modèles 6 ans. Prenez juste le temps de découvrir notre gamme chez votre concessionnaire Mazda le plus proche. Le moment est venu de rouler l'esprit tranquille. Garantie 6 ans limitée à 150 000 km. Offre valable en location longue durée à particulier jusqu'au 30 juin. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Waouh ! Pour la troisième fois consécutive, vous avez choisi Action comme enseigne préférée des Français. Merci pour votre confiance et à bientôt dans nos magasins. Action, petit prix, grand sourire.
Radio Classique, le journal imprévisible.
Bonjour Augustin Lefebvre.
Bonjour David, bonjour à tous.
Plus de 42 kilomètres à travers les rues de Paris, la ville accueille dimanche une nouvelle édition de son marathon. Et vous vous demandez ce matin, après quoi court-il ?
Oui, il et elle seront plus de 55 000 sur la ligne de départ.
À vos marques !
Et la grande aventure commencée pour ces hommes qui, pendant plus de 3 heures, allaient côtoyer sans les voir les promeneurs, les cyclistes et les embouteillages.
Nous sommes de retour dans les années 70, quand la télé s'étonnait de l'essor d'une nouvelle activité physique facile et peu onéreuse.
6 000 inscrits, c'est un chiffre étonnant qui prouve bien l'intérêt porté par les citadins à ce nouveau sport qu'est le jogging.
Entre le disco et le skateboard, le jogging fait partie de ces modes made in USA. Les Français lui ont fait un triomphe. Désormais, à Paris, ils et elles courent. À grande foulée ou à petits pas, dans les sous-bois ou en pleine ville, mais toujours décontracté.
C'est un sport individuel, donc plus facile à pratiquer que des sports d'équipe. Cela demande moins de temps et on y trouve rapidement en tout cas des satisfactions.
La première édition du Marathon de Paris remonte à 76. C'est l'époque où il est courant que des présentateurs se mettent en scène, comme Gérard Rolls, petite foulée pour une interview.
Bonjour docteur. Alors quels sont les bienfaits de la course à pied ?
Ils sont multiples, mais en premier, il faut passer par l'organe essentiel qui est le cœur.
Et Arlette Chabot, avant la politique, s'essouffle en introduction d'une émission qui va tenter de percer les mystères du jogging.
Voilà, une seconde, le temps de reprendre un petit peu mon souffle et de vous dire ce que vous avez d'ailleurs peut-être déjà deviné, c'est-à-dire que l'émission sera consacrée aujourd'hui au jogging. Alors, on ouvre le dictionnaire franco-britannique à la page 265 et on découvre que le mot jogging vient du verbe to jog, qui signifie courir pas trop rapidement, trottiner en quelque sorte.
Du Karine Dijoux avant la lettre.
Exactement, Arlette Chabot en survêtement rouge, nous sommes encore dans un monde où porter des baskets au bureau est révolutionnaire.
Les stylistes de mode se sont emparés du phénomène jogging, comme d'ailleurs de l'engouement actuel pour le sport en général. Et ils ont réalisé des vêtements qui ne sont plus réservés aux seules activités sportives, mais que certains portent même à la ville.
Je pense que dans quelques années, on verra couramment des gens habillés en survêtements pour travailler. C'est très confortable.
À cette époque, Claude François chante Magnolia Forever. Le chanteur fait partie des célébrités fans de course, ce qui inspire Benoît Poulvorde dans Podium.
Pourquoi Claude est-il devenu ce qu'il est devenu ? Parce que tous les matins, il faisait son...
Son petit déjeuner ?
Petit déjeuner, je t'en foutrais, moi. Anne ? Parce que tous les matins, il faisait son...
Son lit ?
Son jogging, bande de buses.
Son quoi ?
Son jogging. Faut que vous sachiez, les filles, que quand les Delpech, là, les Dèves, les Sardou, en train de boîte de nuit pétés comme des coins, Claude, il était ici. Et yoga.
Alors jogging ou yogging, on disait aussi footing. Aujourd'hui, on dit running avec toutes nos excusing aux chasseurs d'anglicisme. Autre personnalité soucieuse de son hygiène de vie, Nicolas Sarkozy, l'ancien président, a fait de sa pratique sportive un atout politique après un Jacques Chirac vieillissant.
Nouveau président, nouveau style. Dès le lendemain de son investiture, footing de Nicolas Sarkozy avec François Fillon, son premier ministre, au Bois de Boulogne. Pas une rencontre internationale sans sa course devant les photographes.
Je cours, je me sens à l'aise, je pourrais m'en tirer. Je cours, ça va, et rien ne me pèse, je suis dans la foulée.
Je cours, dans la chanson La course à pied, c'est aussi Daniel Balavoine et un titre que vous avez chanté tout à l'heure, William Scheller.
Bon, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul.
Au cinéma, celui qui court tout seul, c'est Forrest Gump, ou comment Tom Hanks traverse une partie de l'histoire des États-Unis.
Depuis plus de 2 ans maintenant, un dénommé Forrest Gump, un jardinier de Greenbow en Alabama, ne faisant halte que pour dormir, continue à courir à travers toute l'Amérique. Charles Cooper nous envoie le reportage.
Pourquoi vous courez ?
Vous faites ça pour la paix dans le monde ?
Vous faites ça pour les sans-abri ?
C'est pour le droit des femmes que vous courez ?
Ou pour l'environnement ?
Ou pour les aliments ?
Il ne voulait pas croire que quelqu'un puisse être assez bête pour courir autant sans raison.
Pourquoi faites-vous ça ?
J'ai juste envie de courir !
À cette filmographie sportive, on pourrait ajouter de nombreux films, dont Marathon Man et Le Chariot de Feu. Mais cette question, pourquoi court-il ? Raymond DeVos la pose à l'habitant d'une ville dans laquelle tout le monde court.
Il me dit, vous n'êtes pas au courant ? Il y en a qui courent plus pressés.
Celui-ci court pour la gloire, celui-là court à sa perte. Mais j'ai où compter les lignes à la banque. On a le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant et ils repartent toujours courant gagner d'autres. Je lui dis le reste du temps, il me dit qu'ils vont faire leur course au marché.
Aujourd'hui, que l'on soit né pour courir ou récemment converti, plus de 12 millions de Français pratiquent régulièrement la course à pied. Il me reste pour conclure à souhaiter bonne chance et bon courage à ceux qui s'élanceront dimanche sur les Champs-Élysées.
Le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre, bien dans ses baskets. À lundi, Augustin. À suivre, un décryptage de saison avec Pierrick Fay. Va-t-on manger des asperges dans les semaines qui viennent? C'est pas évident.
Chez Action, vous trouverez des petits prix pour un grand printemps. Avec par exemple 2 mètres carrés et demi de gazon artificiel pour seulement 9,95€ ou un pot de fleurs en zinc pour seulement 77 centimes. Quel que soit l'article que vous recherchez pour votre jardin ou votre balcon, il se trouve dans un magasin ou sur l'appli Action. Action, petit prix, grand sourire. Renault.
Tous les hybrides ne se valent pas. Choisir la motorisation Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est choisir la technologie Full Hybrid numéro 1 des ventes en France. C'est jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. C'est rouler jusqu'à 130 km/h en électrique et faire jusqu'à 40% d'économie de carburant. C'est une gamme complète de 7 modèles Renault Full Hybrid E-Tech, comme par exemple Clio, Symbiose, Austral ou Rafale.
En 2024, source 3A Data, selon version et conduite, économie versus moteur thermique, voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Myriam a 60 ans, elle est chef d'entreprise. Déjà propriétaire à Paris, elle rêvait d'un chalet dans les Alpes. Alors pour dégager de la trésorerie, Myriam a souscrit un prêt hypothécaire in fine auprès du cabinet Bougardier. Elle ne paye que les intérêts pendant 7 ans maximum, avant de rembourser le capital. Ça tombe bien, elle comptait justement vendre sa société dans 7 ans. Comme pour Myriam, au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Pierrick Fay pour le décryptage. Pierrick Fay du journal Les Échos. Bonjour Pierrick.
Bonjour David.
Ma mère dit, plus on les épluche, plus on en mange. C'est un vieil adage pour parler des asperges et vous nous dites qu'on risque une pénurie cette année.
Alors je vous rassure quand même David, ne vous précipitez pas en magasin quand même pour faire du stock, mais c'est vrai que le souvenir 2024 est encore vivace chez les producteurs alors que la récolte 2025 est en cours. L'an dernier, les volumes de production ont chuté de l'ordre de 10 à 20% par rapport aux années précédentes. Sur ce marché, la France est le quatrième producteur en Europe. Ils sont environ 3000 professionnels à travailler sur l'asperge dans des conditions qui ne sont pas faciles. La récolte se fait à la main et la production locale n'est pas suffisante alors que les Français en consomment en moyenne 2,5 kg par saison. Il faut donc en importer d'Espagne, de Belgique et des Pays-Bas.
Que se passe-t-il? Pourquoi cette baisse de la production d'asperges?
Deux raisons. D'abord, la météo. L'an dernier, le printemps a été pluvieux, ce qui n'a pas favorisé la pousse. Alors heureusement, cette année, les conditions ont été plus favorables. La deuxième raison est plus inquiétante. La filière est victime d'un insecte ravageur, le cryocère. C'est une sorte de petite coccinelle qui se nourrit du feuillage des asperges, qui provoque une perte de production. Or, l'an dernier, l'insecte a fait des ravages et les producteurs demandent l'autorisation de réutiliser un insecticide interdit depuis 2018 en France, mais toujours utilisé ailleurs en Europe, une situation qui rappelle celle des producteurs de betteraves.
Alors, est-ce qu'il y a une alternative à ce pesticide?
Alors, les producteurs utilisent un autre produit naturel, mais il serait de moins en moins efficace, au point qu'ils sont parfois obligés de traiter les plantes 10 fois dans la saison, ce qui accroît encore l'accoutumance des cryocères. Des alternatives non chimiques sont à l'étude pour éloigner l'insecte indélicat, comme la mise en place de filets de protection, mais c'est pas aussi efficace. Autre solution pour ne plus manquer d'asperges, augmenter la production en recrutant de nouveaux maraîchers, alors que l'an dernier, les surfaces produites ont reculé de 7% en France. Mais les candidats ne sont pas légion, la culture demande des investissements et il faut 3 ans avant que le rendement soit correct. Alors, une bonne nouvelle quand même, David, pour vous et votre maman qui aimez les asperges. La qualité est au rendez-vous et les asperges asperges sont très tendres cette année. Ce serait dommage que les cryocères soient les seuls à en profiter.
Ils vont quand même pas tout manger. Vous les aimez comment, vous, les asperges? Vertes ou blanches?
Vertes.
Vous préférez les vertes? C'est pas mal les vertes au barbecue. Le décryptage de Pierre-Yves Faye est à retrouver sur l'application Radio Classique. Sans oublier la story des échos sur le site deséchos.fr et sur les bonnes plateformes de téléchargement. Sachez que tous les jours, Pierre-Yves Faye des échos produit un podcast qui nous raconte l'économie de façon très vivante. Pierre-Yves, un grand merci d'avoir remplacé David Barou qui reprend du service dès lundi. Dans un instant, vous allez retrouver le point du jour de Franck Ferrand. Je vous annonce quand même l'invité de 8h15. Je recevrai Louise Vassy, c'est le nouveau directeur de Sciences Po. Il est en poste depuis le 1er octobre et il nous racontera ce qu'il veut faire des étudiants et comment il veut positionner son école dans la compétition internationale de l'enseignement supérieur. Allez, tout de suite un peu d'histoire, c'est Franck Ferrand, il est 7h57. Bonjour Franck.
Bonjour David, bonjour à tous.
Nous voici le 11 avril 2025, et en quelle année vous situez-vous ?
Ah, moi je suis le 11 avril 1961, David, en Israël. C'est le jour, 11 avril 61, je pense que ça parle à beaucoup de nos auditeurs, c'est le jour de l'ouverture du procès d'Adolf Eichmann, l'ancien Obersturmbannführer. Il comparaît pour crime contre l'humanité, évidemment, en tant que maître d'œuvre de la solution finale, ou du moins un des maîtres d'œuvre. Adolf Eichmann a été arrêté un an plus tôt à Buenos Aires, en Argentine, où il se cachait. Ce sont trois agents du Mossad, les services israéliens, ils l'ont débusqué, ramené à Jérusalem, et ce qu'on lui reproche, c'est l'organisation logistique de la déportation des Juifs. Tout le monde, à l'époque, s'attend à voir entrer un monstre terrible, l'archétype du nazi. Quand il comparaît, on découvre un petit bonhomme à lunettes, un monsieur tout le monde, finalement.
Et comment Eichmann se comporte-t-il face à ses juges?
Il ne nie pas vraiment son rôle. Il tente de le minimiser, d'atténuer ses responsabilités personnelles. Au fond, la principale ligne de défense d'Eichmann, c'est qu'il n'était qu'un exécutant, qu'il obéissait aux ordres. Il se présente en fonctionnaire, comme le rouage zélé d'une très vaste organisation. Et c'est bien sûr, vous le savez, la philosophe Hannah Arendt qui va parler à ce propos-là de la banalité du mal. Concept quelque peu remis en cause aujourd'hui, car on n'atteint pas de telles responsabilités dans l'appareil d'État nazi quand même sans adhérer pleinement à l'idéologie et sans jouer des coudes. Toujours est-il que l'une des clés du procès, c'est aussi la prise de parole des survivants de la Shoah. Depuis la libération, c'était un sujet tabou, disons-le. Et avec le procès Eichmann, c'est le début d'une libération de parole. On trouve enfin des auditeurs, on va enfin recueillir des témoignages et après 8 mois d'audience, Adolf Eichmann sera condamné à mort le 31 mai 62. Il sera pendu, l'ancien SS, son corps incinéré et dispersé en Méditerranée.
D'où l'importance des témoignages pour l'histoire. Franck Ferrand, on vous retrouve un peu après 9h. Le temps qu'il fait avec Virginie Fulpin, du soleil partout, Virginie.
Les nuages qui s'accrochent près de la Méditerranée et de la Manche ce matin vont disparaître dans la journée et le soleil régnera partout après. Il fait frais ce matin, quelques gelées blanches dans le nord-est, mais cet après-midi, grande douceur jusqu'à 26 degrés à Bordeaux, 24 à Lyon et Limoges, 21 à Paris et Dijon, 17 à Nice.
Vous êtes merveilleuse.
Chaque heure compte. Passez à l'action avec Bougardier. Des financements sur mesure pour les audacieux, de l'hypothèque à la fiduciaire. Et c'est sur bougardier.fr.
Vous écoutez Radio Classique et il est 8h.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Virginie Fulpin pour le journal.
Un mouvement de rébellion dans l'armée israélienne, un millier de réservistes publient une lettre contre la guerre pour faire revenir les otages. Donald Trump a-t-il manipulé les marchés financiers? Est-ce qu'il a averti des amis avant d'annoncer sa pause sur les droits de douane? Les démocrates demandent une enquête. Et puis un espoir contre la maladie de Parkinson. On vous parle d'un traitement prometteur à la fin de ce journal.
Après le journal, le choix culture de Guy Boyer du magazine Connaissance des Arts. Un millier de réservistes de l'armée israélienne publient une lettre contre la guerre.
Un gros caillou dans la chaussure de Benjamin Netanyahou, un millier de soldats ont rejoint le mouvement anti-guerre en Israël. Ils ont publié une lettre qui demande le retour des otages, même si ça coûte une cessation immédiate des combats. Le Premier ministre parle d'actes impardonnables, les signataires sont déjà renvoyés de l'armée. Guy Poran est à l'initiative de cette lettre, l'ancien pilote de Tsahal ne s'attendait pas à cette répression.
I never imagined that it would create such a big impact. Je n'aurais jamais imaginé que ça créerait un tel impact. J'ai été convoqué par le commandant de l'armée de l'air et le chef d'état-major. Ils ont essayé de nous convaincre de ne pas publier cette lettre. Et en parallèle, ils ont donné l'instruction d'appeler les pilotes signataires pour exiger qu'ils retirent leur signature, sinon ils seraient exclus définitivement. Ça montre qu'ils paniquent, parce que les pilotes de l'armée de l'air ont une grande réputation et une bonne image en Israël. Nous disons que la guerre à Gaza est menée principalement pour des raisons politiques, pour le propre intérêt du gouvernement. Ce n'est pas pour la sécurité, cela met en danger la vie des otages, celle des soldats et celle de Palestiniens innocents.
Lives of innocent Palestinians.
Guy Poran répondait à Lauriane Toulmont. Des pourparlers historiques et des mises en garde habituelles, des émissaires américains et iraniens se retrouvent demain à Oman pour discuter du programme nucléaire iranien. Une rencontre à l'initiative de Donald Trump qui veut absolument éviter que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Marc Tédé.
Officiellement, pour la diplomatie américaine, il s'agit de discussions et pas encore de négociations. Quoi qu'il en soit, et malgré les réticences du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, Téhéran a bien été contraint d'accepter ce dialogue. L'ultimatum de 2 mois fixé par Donald Trump et sa menace de bombardement ont pesé dans la décision, d'autant que l'Iran est affaibli après les déboires de ses appuis régionaux, Bachar al-Assad en Syrie, le Hezbollah au Liban ou les rebelles houthis au Yémen. Le pays traverse aussi une grave crise économique. Acculé, le régime des Mollahs n'a pas pu ignorer cette demande de négociation envoyée moins de 8 mois avant la fin de l'accord international sur le nucléaire iranien. Le pouvoir de Téhéran espère ainsi sauver ce programme nucléaire qu'il présente toujours officiellement comme strictement civil. Autre souhait des autorités iraniennes, obtenir